On n'a pas trouvé un mot encore. Qui convient vraiment pour ça. On dit enseignement sur le Dharma, mais en fait il n'y a pas d'enseignement sur le Dharma. Ça ne convient pas vraiment. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce qu'on fait là? Difficile. Je crois qu'il y a des groupes qui disent causerie. Discours, c'est pas vraiment un discours. En anglais, on dit Dharma Talk, qui en fait c'est une formule qui ne veut rien dire, mais c'est assez clair pour que les gens comprennent quelque chose, mais ça ne veut rien dire, Dharma Talk. Mais en anglais, on a cette facilité de mettre les mots ensemble et pour rien dire. En ce moment, je suis très... Je ne peux pas dire que je réfléchis beaucoup sur, mais le travail est très présent pour moi, parce que j'en ai plus. Enfin, j'en ai plus dans le sens que je viens d'être licenciée. Donc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. C'est ça qui est curieux. C'est que dans notre société, on a tellement cette j'ai lu quelque chose récemment où c'était un philosophe qui est mort, qui s'est suicidé d'ailleurs, qui a beaucoup réfléchi à cette question, et il disait quelque chose du genre lui, il aurait aimé une société dans laquelle l'emploi du temps, ce n'était pas le temps de l'emploi. Tu as entendu ça aussi?
Non.
Non. Ah. Parce que on a dans notre société actuelle, les temps modernes, entre guillemets, très capitalistes, industriels, etc. Enfin, de moins en moins industriels, mais toujours capitalistes. On vit pour travailler, en fait. On est identifié, notre raison d'être, notre place dans la société, dans la culture, c'est le travail qu'on fait. Bien que moi, je me trouve pas dans cette société, de cette façon-là. Il y a belle lorette, comme on dit, j'ai choisi de faire autrement, donc de travailler un temps partiel, pour pouvoir faire ce que je voulais faire vraiment. Les choses que je voulais faire vraiment ne me ramenaient aucun argent. Et donc je faisais ce travail pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Et parmi les choses que je voulais faire, il y a cette pratique de méditation et écrire de la poésie. Les deux étant un fin en soi. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas la poésie pour vendre la poésie. Ce n'est pas un produit qu'on fait pour vendre. Et la méditation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour quelque chose d'autre, pour le vendre. Ce n'est pas une marchandise. On ne produit pas quelque chose qui peut être échangé pour l'argent, etc. Et même cette démarche que j'ai fait, que nous avons fait pour faire un centre, ce n'est pas une démarche marchande. Ce n'est pas parce qu'on veut gagner de l'argent qu'on fait ça. On souhaite gagner assez d'argent pour payer le loyer. ce qui va nous permettre de rester ici et continuer d'offrir cette, faire cette pratique nous-mêmes et l'offrir aux autres. Et donc, depuis très très longtemps, depuis 20 ans, j'avais choisi ce mode de vie. Et je suis totalement à l'aise avec ça. Alors vient le moment d'être licencié, qui correspond exactement à un jour près de la création de ce centre. La création du centre est venue avant. Donc c'était vraiment même pas avec en tête l'idée que j'allais être licenciée que j'ai créé le centre. C'était le contraire. Et dans ce processus de licenciement, tout de suite quand j'ai appris que ça allait se faire, j'étais presque contente, pas parce que j'allais être licenciée, mais parce que ça allait me permettre de vivre une expérience que vivent beaucoup de gens. Un grand, grand nombre de gens dans notre société se trouvent dans cette position. D'être licencié, de ne pas avoir de l'emploi, etc. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je trouvais précieux cette possibilité que je pouvais le vivre en direct. Il faut dire aussi que ma situation n'est pas comme beaucoup de chômeurs. Je touche beaucoup d'indemnités. Je suis pas très, très, j'ai encore 4 ou 5 ans et je suis à la retraite. J'ai un mari qui travaille, ma maison est presque payée, donc j'ai un logement. C'est pas du tout comme la situation de beaucoup de gens. En même temps, c'est la même situation vis-à-vis de la société. Chômeur, licenciement, pas d'identité avec un boulot, une entreprise, profession, etc. Et depuis, je suis, c'est pas tellement que je suis contente, mais je me donne à cette situation de plein gré, disons. J'ai envie de cette situation pour voir de quoi il s'agit. Et je sais que mon œuvre de poésie qui naît de ça va être très très riche et très vibrant, et ça va parler vraiment de notre temps. D'une façon, c'est toujours la poésie que je fais parle de notre époque, mais je pense, parce que je suis journaliste de profession, et donc tout ce que j'écris est très imprégné avec l'air du temps. Mais ça va être particulièrement tranchant, je crois. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec notre pratique? C'est cette démarche qu'on fait de s'asseoir et ne rien faire pendant 40 minutes. J'observe mon esprit, hein, je vois ce qui se passe. Là, dans ces 40 minutes, il y avait vraiment beaucoup de choses de la journée qui étaient là. Et c'était presque avec délice que je restais avec ça, et je goûtais et je voyais différentes possibilités, et je racontais les histoires de la journée dans ma tête. Et puis à un moment, c'est comme avec la respiration, à un moment je me suis rendu compte que je faisais ça. Je savais très bien que je le faisais, mais il y a un moment où il y a une prise de conscience, et je me suis dit, ah non, c'est pas vraiment ça. Ce même philosophe qui a dit, il s'appelle André Gorz, ça vous dit quelque chose? Il y a quelques années, il s'est suicidé avec sa femme. C'était très célèbre. Oui, en France. Et ils étaient âgés, ils avaient 85 ans, et l'un ne voulait pas être survécu toute seule quand c'est l'autre meurt, et donc ils ont décidé de partir ensemble. Bref. Il avait aussi dit, attends, j'ai perdu le fil, qu'est-ce qu'il avait dit? Ah oui, sa question était, De quelle façon voulez-vous vivre et qu'est-ce qu'il faut faire pour mener votre vie de cette façon? C'est très intéressant. Hein? Personne ne se pose cette question. Enfin, si, à moitié. On dit on veut avoir beaucoup d'argent, on veut faire une œuvre monumentale, on veut se marier, avoir des enfants, etc. Bon, c'est pas tellement ça dont il s'agit. Qu'est-ce que vous voulez vraiment de votre vie? Et qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour avoir ça, pour vivre ça? Vivre de cette façon. Moi, ça se trouve que cette pratique, cette méditation, j'ai dit méditation parce que c'est encore une chose comme le Dharma Talk qui ne veut rien dire, mais c'est, on met une étiquette dessus pour savoir plus ou moins de quoi il s'agit. Je savais que c'était ça. C'est comme ça que je voulais vivre. Et alors, la question restait, qu'est-ce qu'il faut faire pour mener cette vie-là? Une partie de la réponse était, travail temps partiel. Je ne voulais pas, entre guillemets, perdre ma vie à autre chose. Il y avait des sacrifices, j'avais la moitié de l'argent. Mes collègues, ils habitent à Saint-Germain-en-Laye, à Maisons-Laffitte, dans le 7e. Moi, j'habite à Montreuil. C'était un choix. Je n'ai pas les fringues comme tout le monde, etc. Mais c'était un choix. J'avais décidé ce qui était le plus important, de quelle façon je voulais vivre. Et cette pratique, si on le fait, entre guillemets, véritablement, on verra. On verra de quelle façon on veut vivre. Je ne veux pas dire que tout le monde va choisir de vivre comme moi je vis. Ce n'est pas du tout ça. Mais tu verras de façon que toi tu veux vivre. Et ça devient plus clair ce qu'il faut faire pour mener à ça. Car ce qu'il faut faire, entre guillemets, valoir, entre guillemets, devient clair quand on n'a pas toutes les idées de ce qu'il faut ou pas faire. Encore une fois, c'est un raccourci, je simplifie avec des gros concepts, etc. Moi, ça m'avait amené jusqu'à, dans ce projet de licenciement, ce plan de départ, comme ils appellent ça, la direction de mon entreprise, mon journal, avait proposé un plan de départ avec certaines choses, et ils ont dit, et si vous acceptez de faire ce qu'on appelle le volontariat, c'est-à-dire de dire que vous partez, que vous voulez partir plutôt que vous êtes licencié, on vous donne 2 mois de salaire de plus. On vous donne de l'argent. Pour mentir, on vous donne de l'argent. C'est grosso modo ça. Et mes collègues ont mordu. La plupart de mes collègues, enfin tous mes collègues, à la rédaction, on fait, sauf moi. Et moi, ce n'était pas difficile. Au début, quand ils proposaient ça, je demandais aux réunions qu'on avait avec les délégués, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi ils veulent ça? C'est les directions qui voulaient ça. Pourquoi ils veulent ça? Pourquoi? Pour se donner bonne conscience, que tous ces gens partaient de volontairement, est-ce que ça change quelque chose devant la loi? Oui, parce qu'une partie de l'accord, c'était Ok, en vous donnant le salaire de plus, vous dites que vous êtes partant volontairement. Et en plus, vous ne pouvez pas nous poursuivre en justice pour quel ou tel truc. Aussi, pour leur image, dans la presse, etc., ils pouvaient dire « Ah, ben, la majorité était des départs volontaires. Il y avait peu de licenciements. » Mais les délégués ont convaincu tout le monde que l'argent, 2 mois de salaire, c'est pas une mince affaire.
Et la foi, c'est si peu. Pour mentir, comme tu dis, et pour accepter de cautionner une décision d'une brutalité inouïe. Enfin.
Bon. C'était ma position. En plus, ma position, c'était même... La question n'était même pas est-ce que je veux ça, c'est que ça ne faisait aucun sens pour moi de faire ça. Bon, j'essayais de me justifier en disant ok, je vais toucher beaucoup d'indemnités parce que j'ai beaucoup d'ancienneté. Pour mes collègues qui sont là depuis 5 ans seulement, ces 2 mois de salaire, c'est plus important. Bon, les choses comme ça. Mais je pense que. N'importe quel prix, j'allais pas accepter de le faire. Il ne pouvait pas m'achever, disons. Je ne faisais pas tout un plat avec ça. D'ailleurs, je n'ai rien dit à personne. De temps en temps, quand ça venait dans la conversation, je disais à mes collègues, mais je ne me présentais pas devant l'Assemblée en disant « Non, je ne fais pas. »
Combien de personnes sont concernées?
Le point de départ, il y a 69 personnes sur un effectif de 120 et 60 ont accepté le volontariat et je suis le seul à la rédaction sur, je crois, 40 personnes. Je crois que c'est 40 personnes.
C'est sidérant.
Alors, pour moi, j'ai pris ma décision au mois d'août, c'est ce qu'il fallait le dire, avant le 31 août. J'étais en vacances et j'avais déjà décidé plus ou moins ce que je n'allais pas faire. Mais c'était devenu d'une évidence sans faille. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, mais pour moi, c'était l'évidence. Et là, c'est le fruit de mon assise, ce genre d'évidence. Je n'aurais pas pu avoir cette évidence, de voir cette évidence, si je n'avais pas cette pratique. Et de ne pas, rien ne pouvait m'ébranler dans cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais allée voir un avocat, parce que je voulais être sûre que la direction ne joue pas les tours. Parce qu'ils jouent les tours à mes collègues qui ont pris le volontariat. Et donc, je voulais vérifier, etc. Et c'est un avocat qui a travaillé beaucoup avec des journalistes depuis des années, qui a été licencié, des trucs comme ça, à mon journal, et qui a très bonne réputation. Je vais voir, j'explique ma situation, etc. Et elle dit, ah bon, vous n'avez pas pris le volontariat? Elle est au courant parce que d'autres de mes collègues l'ont consulté. Je suis le seul. Ah bon. Et puis elle me dit à maman, pourquoi vous n'avez pas pris? Et j'ai dit, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai que je pars volontairement.
Oui.
Elle me dit, ah ben, c'est un principe pour vous. Comme ça, je dis, ah oui, si vous voulez, c'est comme ça, mais c'est pas vrai. Et non, d'abord j'avais dit parce que l'argent, mais elle m'a dit, mais c'est 2 mois de salaire. Et je dis, mais l'argent n'importe pas dans cette situation. Ah oui. Et puis, la conversation continue, on voit différents points, etc., discussion, et puis bon, je trouve que c'est dommage que vous n'avez pas pris le volontariat. Je dis, pourquoi? Elle a dit, bah, 2 mois de salaire. fumer. C'est un choix que j'avais fait. Et elle n'essaie pas de me convaincre. Je crois qu'elle était étonnée. Franchement, elle était étonnée. Et elle voulait vraiment me sonder un peu, je crois, pour me comprendre. Et puis, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que vous allez chercher un travail après, ou qu'est-ce que vous allez faire? Et je lui ai raconté que j'ouvrais un centre de méditation. Ah bon, vous faites de la méditation? Et j'ai dit, oui, depuis longtemps. Et j'ai dit, d'ailleurs, c'est ça qui m'avait amené à travailler temps partiel, et c'est la même démarche que ne pas prendre le volontariat. C'est où votre centre? Je dis, ah, c'est à Paris. Il y a des gens qui viennent? Oui, et je pense qu'il y a... Ma question aussi pour elle, c'était, est-ce que dans le plan de départ, il y a un paquet d'argent qui est mis pour soit faire les formations, soit investir pour créer une entreprise, ou une entreprise qui est déjà existante. Et moi, je voudrais savoir si je peux l'utiliser pour ça. Bon, il y a une boîte de consultants qui m'avait dit non, qu'il faudrait que ce soit une entreprise avec un, comment ça s'appelle, Cabis. Mais je ne suis pas sûre. Donc, j'ai demandé à l'avocat. Elle n'est pas sûre non plus. Parce qu'une association, c'est une personne morale qui peut vous régler un salaire. Et donc, peut-être que c'est possible. Et donc, elle me dit, ah bon, il y a des gens qui viennent. Et je dis, bah oui. Et je pense qu'il y aura plus si on pouvait investir et faire grandir. On essaie de faire, etc. Bon. C'est où, pas? Je sais pas, c'est dans l'onzième. Et pendant ça, à un moment, elle m'a regardé dans les yeux. C'est rare que des gens te regardent comme ça dans les yeux sans. Elle m'a regardé comme ça. Et moi, je regardais. Je n'ai aucune idée de quoi il s'agissait. Mais c'était un moment très particulier.
Très
particulier. Et je pense qu'autrefois, j'aurais eu, comme on dit en anglais, second thoughts. J'aurais dit, mais attends, Alice, c'est dommage. Oui, j'aurais dû faire, je regrette. Oui, peut-être mes collègues, ils avaient tous raison. Après tout, je suis le seul qui fait ça, etc. Pas du tout. Pas du tout. Et ce n'est pas non plus que je suis fixée sur ma position. C'est que je sais que c'est ça. Je sais. Pour moi, c'est ça. Cette confiance, c'est le fruit de cette assise. C'est vraiment le fruit de ça. Je sais. Je n'ai pas fait cette assise pour ça. C'est comme je n'écris pas un poème pour que le monde en parle ou qu'on achète mon livre. Pas du tout. Mais il y a des fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fruits. Je fais ça. Je sais que c'est ça qu'il y a à faire. Alors, si ça c'est un enseignement sur le Dharma, c'est un enseignement sur le Dharma. C'est ce qu'il y a à dire ce soir, ici, dans ce contexte. Un autre soir, ce ne sera pas ça. La semaine dernière, on avait fait un cercle de parole. C'était aussi un enseignement sur le Dharma. Vous savez que je dis ça. Je dis, cette fois-ci, tout le monde va donner un enseignement sur le Dharma parce que c'est un enseignement sur le Dharma quand tout le monde parle. Boire cette eau est un enseignement sur le Dharma. Chaque instant est un enseignement sur le Dharma. Cet échange avec cet avocat cet après-midi, c'était un enseignement sur le Dharma. Et donc, c'est difficile quand on dit oui. Je viens méditer parce que pour ceci ou cela. Et les gens te demandent, hein, dans votre entourage, si vous dites que vous faites la méditation, ah oui, pourquoi? Un peu comme cet avocat, pourquoi? Ou ça peut être, hein? Quoi? C'est un peu bizarre ça, hein? Non. Différentes réactions. On a le droit de ne pas savoir. Disons. On a le droit de disons que on a le droit de que la vie soit le travail. On n'a pas besoin de travailler pour vivre. La vie, c'est le travail. Ce que vous êtes, c'est le travail. Et travailler de cet aspect-là, de ce point de vue-là, ce n'est pas un corvée, c'est votre œuvre. Vous, vous êtes votre œuvre. Et tout ce que vous faites, c'est votre création. Et la création est son propre fin. Les artistes savent ça, plus ou moins. Enfin, je ne sais pas s'ils le savent, mais ils ne peuvent pas faire autrement, en général. Et ils sont très embêtés dans cette société actuelle, cette culture des marchands, où tout doit être une commodité, non, commodity en anglais, un bien, non, tout doit être vendable, tout doit être marchandé, etc. Mais ce n'est pas uniquement les œuvres d'art. Les livres, les films, les pièces de théâtre, ce n'est pas uniquement ça. Hein. C'est les scientifiques qui doivent pouvoir vendre aussi ce qu'ils font. Et donc c'est vraiment une démarche radicale ce qu'on fait ici. Ce n'est pas ce qu'on dit non, c'est ce qu'on dit oui à ça. C'est pas qu'on dit non à quelque chose d'autre, c'est qu'on dit oui à ça. En disant oui à ça, effectivement, il y a d'autres choses auxquelles on ne dit pas oui. Pour écrire la poésie, je dis ok, non, je ne vais pas écrire les best-sellers, mais c'est pas parce que au début j'allais écrire les best-sellers, non, c'est que là je vais écrire la poésie parce que c'est ce que je suis. Alors il faut beaucoup de courage quand même, hein, apparemment, mais quand il y a cette évidence, il n'y a même pas besoin de courage parce que c'est évident. Quand vous avez soif, vous buvez de l'eau. Enfin, c'est évident. Ok. Des choses à dire ou... Des questions?
Le choix était clair. Est-ce que le choix de travailler à mi-temps, est-ce que le choix était aussi clair il y a 20 ans? Est-ce que c'était une évidence aussi ou quelque chose de plus compliqué?
Le choix de travailler à temps partiel était assez évident à l'époque parce que Quand j'allais vivre dans la communauté, dans la maison avec mon maître et d'autres gens, et on créait, c'est comme ça, on créait un centre, c'était tout nouveau. On commençait à zéro. J'étais enceinte, j'avais déjà un autre enfant. Et alors là, si j'ai travaillé, les premiers mois, j'ai travaillé plein temps. Et entre les enfants et mon travail, j'étais jamais là. Enfin, je pouvais jamais pratiquer. Je pouvais jamais s'asseoir, participer avec les autres. Et la raison que j'ai déménagé dans cette maison, c'était pour pratiquer, pour vivre pleinement. Je savais quelque part que je voulais ne pas avoir une séparation entre ma vie et ce qu'on appelle la pratique. Je voulais que ce soit un. Et ça, c'était évident dans le sens que c'était tellement fort ce désir que je ne pouvais pas dire non. Et donc après, ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire que pendant les premiers mois, j'étais au four et au moulin. Sauf très peu au four et beaucoup au moulin. Et puis j'ai eu ma congé maternité. Et pendant le congé maternité, j'ai réalisé que, ah oui, mais attends, mais il y a quelque chose qui se passe là quand je ne suis pas là. Et je voulais trouver un moyen d'être là le plus souvent que possible. Étant là, étant de m'engager le plus possible dans cette démarche de pratique, sangha, créer ce centre pour les autres. Parce qu'il y avait très peu de monde au début quand on faisait ça. Et donc, pendant ma congé maternité, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Et donc, j'avais le choix. En France, c'est merveilleux. Après un congé maternité, on a la possibilité de venir, revenir au travail en temps partiel. Et j'avais déjà essayé ça avec la naissance de ma fille, 5 ans auparavant, et ça ne m'a pas plu du tout. Mais j'étais dans un autre moment de ma vie. Et j'avais fait ça un peu avec mon premier enfant, et après non. Et là, je l'ai fait, et c'était parfait. Ça me permettait de garder quand même une présence dans le monde de tous les jours, un peu comme goûter cette expérience de chômage me permet de partager quelque chose avec des autres, une expérience particulière. Et là, être dans le monde de travail, entre guillemets, ça me permettait aussi de continuer de partager la vie de tous les jours, de tout le monde. Et au même temps, j'avais du temps pour le reste. Et donc c'était clair à ce moment-là. Encore une fois, j'avais un très bon salaire et donc temps partiel était quand même un salaire conséquent. J'avais pas le loyer quand je vivais dans la maison comme ça, était moins que si j'avais un appartement. Les frais aussi. Bon, c'était un peu une situation de luxe pour un temps partiel. Mais oui, c'est ce que je voulais faire. Ouais. La décision auparavant d'aller vivre dans la maison n'était pas si claire que ça. On savait qu'on allait créer ce centre et on imaginait que les gens de l'étranger allaient vivre là, que les Parisiens allaient rester chez eux. Et donc pendant quelques mois, c'est ce que je pensais. On allait rester chez nous. En plus, j'étais enceinte. Non, je n'étais pas encore enceinte quand on avait décidé ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais non, j'ai envie de vivre cette aventure et vivre ça. Mais je pense aussi que c'était le frais de ma pratique, bien que j'étais débutante à cette époque, hein. Mais cette assise permet de ne pas être comment on dit, d'être dans le vent dans tous les sens, un peu comme
dispersé.
Oui, un peu dispersé, un truc comme ça. De ne pas juste sauter sur le premier wagon qui arrive.
Dans la confusion.
Pardon ?
D'être moi dans la confusion.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est bien que tu poses cette question parce que je pense que cette confiance dont je parle, ça devient de plus en plus important au fur et à mesure que j'ai pratiqué et que maintenant, 20 ans plus tard, c'est encore plus. Ça ne veut pas dire que je sais toujours ce qu'il faut faire, du tout. Mais quand il y a une évidence, c'est vraiment évident. Quand il y avait de l'évidence de ce centre, c'était vraiment évident. Peut-être qu'on va se casser de figure et dans un an, on ferme, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est vraiment ça. Et je pense, enfin, ce que je ressens, c'est que tout le monde a ça. Mais on ne prête pas attention. Ou c'est très masqué, ou c'est enfoui, ou on a tellement été conditionné de ne pas l'écouter, de le regarder, qu'on a perdu de vue. On s'est perdu. Mais je sais qu'on a tous cette possibilité en soi, de savoir. Et d'ailleurs, probablement, on le sait sans le savoir. Souvent, les gens me racontent des choses, etc. Mais je sais que la façon dont ils parlent de leur indécision, etc., je sais qu'ils savent quelque part ce qui est bon pour eux. Bien que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour eux. Je n'ai aucune idée. Je peux écouter et je peux avoir une idée, mais c'est pas moi qui sais du tout. Disons, ce qui est bon pour eux, c'est qu'ils trouvent ce qui est bon pour eux. Ça, je sais.
Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a fait penser. Est-ce que c'est peut-être juste une capacité à dire t'as dit un truc comme je crois parler de ne pas savoir, c'est bien de ne pas savoir ou
j'avais le droit de ne pas savoir
le droit de ne pas savoir, voilà. Et ça me pensait finalement, est-ce que c'est pas il y a un truc avec d'être de je sais pas comment dire, de prendre conscience effectivement de voir ce qu'on veut et ce qui est clair, mais de l'admettre même si on trouve pas les raisons. Il y a quelque chose qui s'impose. Et de l'accepter même si on n'arrive pas à le raisonner, quoi. Il y a à trouver une suite de pensées qui fait que c'est que d'accord, alors c'est logique, alors les autres comprennent aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. On va souvent chercher des explications pour savoir pourquoi je fais ceci ou cela. Je raisonne, j'étais assise sur une terrasse de café qui était bondée, il y avait beaucoup de monde. Et on m'avait mis, j'étais seule, et donc on m'avait mis à une table, et de chaque côté, il y avait une table de deux jeunes femmes. C'était happy hour, et donc beaucoup de monde, etc. Et les deux tables parlaient, causaient, nanana, buvaient, regardaient leur téléphone, fumaient, etc. Et je n'avais pas encore commandé, et je me suis dit, mais attends, mais je ne veux pas être à cette place-là. je regardais à l'intérieur, il y avait beaucoup moins de monde. Donc je me suis dit, je ne veux chouette. Mais je sais qu'il y a ce truc, ok, mais qu'est-ce qu'elles vont penser les deux tables si je me lève? Qu'est-ce que le serveuse va penser si je me lève? Qu'est-ce qu'ils vont croire que je suis fâchée, etc. Mais c'était pas du tout ça. Et donc, comme tu dis, je commençais à dire dans ma tête les raisons pour lesquelles je voulais me déplacer. Mais je n'avais pas expliqué pourquoi je voulais. Mais c'est le réflexe qu'on a. C'est de justifier ce qu'on veut faire ou non. Et puis dire, oh non, mais bon, je ne vais pas dire tout ça, donc je vais rester ici. Me faire chier, rester là, en fumée, avec beaucoup de bruit, etc. Plutôt que de le faire. Donc finalement, je l'ai fait. Je me suis levée, je n'avais des comptes à rendre à personne, en fait. Mais c'est notre premier réflexe, c'était de justifier.
Et peut-être parfois aussi une grande partie de cette nécessité de justifier, il faut que ce soit de bonnes justifications pour qu'on n'ait pas l'image de quelqu'un d'égoïste. Il y a quelque chose comme on attend de nous de ne pas être égoïste et ne pas comment je l'explique, que ce soit des bonnes raisons. Voilà, des raisons acceptables. On ne peut pas dire juste non, j'ai envie d'être à l'intérieur. On peut dire, mais les gens ils vont dire non, c'est pas ça, c'est parce que telle personne ou telle, voilà, c'est il faut que ce soit de bonnes raisons, comprends ça, il faut que ce soit une justification viable dans les yeux des autres. Et nous, on cherche pour nous aussi, de justifier de la même manière, alors qu'on n'a pas besoin pour nous.
Ah oui, c'est ça, absolument. Ou ça va prendre la forme d'utilité ou inutile. Et en fait... l'inutile est très utile. Et la méditation est inutile. La poésie est inutile. Je vis ma vie dans l'inutilité. Enfin,
avoir un enfant, c'est inutile.
Peut-être, je ne sais pas. Ça dépend comment. Souvent, notre société ne le voit pas que c'est inutile. C'est utile parce qu'il faut procréer, il faut continuer la race, il faut transmettre les biens, il faut avoir les héritiers, etc.
Payer des retraites.
Pardon ?
Payer des retraites.
Payer des retraites, exactement, c'est ça. Regarde, le gouvernement encourage les gens à faire des enfants. On nous donne de l'argent pour faire des enfants. C'est vu comme étant utile à la population s'il y a des enfants. Tandis que la poésie, on s'en fiche vraiment. Hein. Mais s'il n'y en avait pas, la littérature, l'art, le cinéma, le théâtre, la poésie, s'il y en a la danse, s'il n'y en avait pas, notre société, la race humaine, je crois que c'est fini. C'est fini. Parce que c'est ce qui nous rend humains, en fait. Les animaux, ils ne font pas les œuvres d'art. Les animaux, ils ne font pas les choses... entre guillemets, inutile. Enfin, ils ne sont pas conscientes. Ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas danser. Ils ne vont pas chanter.
Et quelque part, en même temps, on pourrait dire que la vie entière, en fond, est inutile. Ce que font les animaux. Parfaitement inutile, en fait.
Tout à fait. Et on passe notre vie à chercher que ce soit utile. Et même dans notre société, bon, tu es chômeur, tu n'es plus utile. Tu es vieux, tu es plus utile. C'est terrible. C'est vraiment terrible comme culture qu'on a. Et donc on va nous récompenser en nous donnant de l'argent. Tu n'es plus utile, mais on va vous donner de l'argent. On va te donner de l'argent. C'est bien. Moi, personnellement, ça va me permettre de faire ce que je veux faire, vraiment. Je continue d'avoir ma vie financée par ce journal. Pourquoi pas?
Ça me faisait penser à autre chose quand tu parlais tout à l'heure, c'était j'ai l'impression que quand quand je suis au travail, souvent bon, il y a des trucs qu'il faut que je fasse parce qu'on me demande de faire, et je me dis souvent mais j'ai envie de faire aussi d'autres trucs, et j'ai envie d'apprendre ça ou de lire ça et tout ça, et il y a des moments où je me dis, enfin récemment là je me disais qu'est-ce que ça veut dire faire de mon travail une pratique aussi, et je le prenais en me disant si j'essaye d'avoir la même attention sur ce que je fais que l'attention que j'essaye d'avoir avec la respiration, par exemple. Je me rendais compte que approcher le travail comme ça, ça me fait j'ai l'impression que ça me fait me concentrer sur simplement ce qui est nécessaire, en fait. Et ce qui est nécessaire, justement, ça me met de côté tous les trucs que je me dis, pour lesquels je me dis j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça. J'ai l'impression que dès que je rajoute des trucs comme ça, ça crée des problèmes, en fait. Et que si je me dis que si je prends le travail comme une pratique, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Si je me dis que je prends le travail comme une pratique, je peux être simplement attentif à ce que j'ai à faire. Et pas rajouter de trucs à côté, pas rajouter tous ces petits trucs que je voudrais faire en plus, et ça rend les choses plus faciles. Et en même temps, enfin, il y a un truc un peu confus, j'arrive pas complètement à mettre de l'ordre dedans. Et en même temps, ces trucs que j'ai envie de faire, peut-être que justement, enfin ouais, j'allais dire en fait, peut-être que justement j'ai envie de les faire pour rien, mais en fait ouais, je sais pas, enfin, en fait je sais pas, je pense que il y a une partie de ces trucs que j'ai envie de faire, c'est par exemple lire des trucs sur des théories de maths qui m'intéressent, mais c'est juste parce que ça m'intéresse, en fait il y a pas de, j'en ai pas vraiment besoin dans le travail que je suis en train de faire en ce moment, mais j'ai envie de faire. Et c'est un peu un problème parce que je le fais, mais du coup je culpabilise un peu parce que je me dis je le fais presque un peu en cachette, quoi. Ce que je suis pas censé faire. Je me dis c'est pas utile, il faut que je fasse des trucs utiles pour. Et j'ai un chef en ce moment qui. Bon, j'ai déjà un peu parlé, mais j'ai l'impression qu'en dehors de l'utile et de l'efficace, si c'est pas utile et efficace, ça vaut rien. Du coup, je sais plus tellement comment prendre ces trucs que j'ai envie de faire juste parce que j'ai envie de les faire. Parce que d'un côté, je me dis, bon, c'est juste que j'ai envie de les faire et que ça m'amuse, donc c'est pas mal. Donc c'est, enfin, il y a quelque chose de bien parce que j'ai juste envie de le faire pour rien d'autre. Et d'un autre côté, si je le fais, bah ça crée plein de problèmes en fait. Ça rajoute plein de problèmes. D'un espèce de greed, comment on dit en français,
l'avidité.
Ouais, l'avidité de il faut que j'en sache plus, ou j'ai envie d'en savoir plus sur ces, j'ai envie de connaître plus de cette théorie là, ou d'en connaître plus de maths, ou de connaître plus de philo, et il y a une espèce d'avidité qui se met en place en fait aussi dans ce truc qui vient pourtant ben juste j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire quoi. Ouais.
Une façon de le voir, c'est que si tu prends la situation, tu viens à la situation sans tes idées de ce qu'il faut faire ou pas faire, ou ce que je veux faire ou pas faire, disons. Tu as accepté cette situation parce que c'est ton travail, tu es payé pour le faire et tu as besoin de cet argent pour payer ton loyer et manger, etc. Bon. Donc, on accepte ça. Mais si on voit ça d'une façon totale, entière, il y a des choses à faire dans cette situation. Le boulot que tu as exige certaines choses à faire, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais bon. Et quand on commence à dire « Ah, mais j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça », effectivement, on s'égare. On n'est plus juste avec ce qu'il y a à faire. On est avec ce qu'il y a à faire, mais ce que je veux aussi. Je préfère faire ceci ou cela. Et là, on va avoir les problèmes, effectivement. On va tirailler. Il y a un moment quand on peut faire ce qu'on veut. Enfin, ce que tu peux dire, les théories de mathématiques, ce que tu veux. Il y a un moment, certainement, pour ça. Mais il y a d'autres moments que tu dois faire d'autres choses. C'est un peu comme, je sais pas... Quand le feu est rouge, les voitures doivent s'arrêter. Ils aimeraient ne pas faire. Ils aimeraient continuer, mais il y a des conséquences s'ils ne le font pas. Ou la vitesse est limitée à telle, le mec il est en Ferrari, il aimerait bien aller beaucoup plus vite. Et ils ne tiennent pas en place, mais bon, c'est la règle. Donc on le fait. Et une énorme liberté à juste faire ce qu'il y a à faire. C'est là où on peut vraiment être libre. C'est comme on dit quand on fait la méditation en marchant. Quand on marche, c'est tout. On va nulle part. On ne la fait pas pour une autre raison. Tu fais ton travail parce que c'est ce qu'il y a à faire. C'est pas... Même... Bah, tu le fais parce que tu es payé pour le faire, mais c'est gratuit d'une certaine façon. Ça... Et si vraiment ça ne te plaît pas, tu es libre aussi de ne pas le faire. Il y a des conséquences aussi si tu ne le fais pas. Il s'agit de voir les situations. On dit souvent « prends un pas en arrière » pour pouvoir voir la totalité de la situation, de quoi il s'agit. Voilà. Et c'est perspicace ce que tu dis avec cette histoire d'avidité, parce que c'est ça. C'est une sorte de « je veux, je veux, je veux ». C'est comme pendant l'assise des 40 minutes, tout les histoires de la journée étaient là, je veux. Je voulais rester avec ça, c'était juteux, c'était très intéressant, ça, excitant, etc. Mais en fait, c'est pas ça que je veux. Donc je dis, ouais, qu'est-ce que je veux, comment, de quelle façon je veux vivre, et qu'est-ce qu'il y a à faire pour mener à ça? Ben, c'est pas rester avec ces histoires.
Il est 21h35.
J'ai l'habitude, autrefois, les vendredis soirs, le temps était plus court. Et donc, j'ai intériorisé le temps et j'ai l'impression que c'est beaucoup trop. Je trouve que ça suffit, ce que j'ai dit, hein, mais si vous avez des choses à dire, je veux bien recevoir.
Je voudrais juste réagir sur ce qu'il a dit. Moi, ça m'arrive beaucoup, et pas dire tout le temps. J'ai bien découvert que c'était, surtout depuis que je pratique, que c'est pas que je veux vraiment faire autre chose, que je ne veux pas faire ce que je suis en train de faire. Vraiment, parce que parfois, c'est justification, comme en théorie des mathématiques, parfois j'allais regarder sur internet des choses importantes pour moi ou vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais très très souvent c'était le journal, très souvent c'était autre chose. Pour ne pas aller en Facebook, je ne suis pas allé jusqu'à là, passer des heures là-dessus, mais vraiment des choses où je passais des choses à des choses. Et c'était évident que c'était pour ne pas faire ce que j'ai à faire, qui était le travail. Et le plus intéressant, ça fait des années que même quand je ne travaillais pas et que je trouvais le temps de faire ce que je veux vraiment faire, donc écrire par exemple, il y avait aussi cette stratégie d'évitement. De la même façon, c'est pas seulement quand j'étais obligé de travailler pour l'argent, c'est même quand je faisais le travail pour moi, donc qui est difficile, etc. Mais enfin, pour moi en tout cas, et il y avait la même stratégie d'évitement, en fait, d'aller regarder des choses sur internet, etc., que je pourrais dire qui m'intéresse, mais bon.
Au lieu d'écrire,
bien sûr. C'est très très difficile d'écrire, une discipline, tout ça. Pour certains, en tout cas, je sais pas. Pour moi, en tout cas. Et là, je suis un peu dans la même situation, parce que là, je suis à mi-temps pour écrire à mi-temps. Là, je trouve la justification cette année. Conformation qui justifie d'être dans le monde extérieur que j'avais fait, c'est pas juste pour moi, c'est une formation. Bon, voilà, c'est pas mieux même en fait. Mais je suis obligé de m'asseoir à l'écrire, c'est de rendre quelque chose, etc. Et je l'ai fait par choix. Mais il y a la même stratégie d'habitement et j'apprends énormément avec ça, en regardant ça. Voilà, donc ça. Pour moi, en tout cas, c'était une grande découverte. Pourquoi je l'ai fait avant? Je pensais juste, j'arrive pas à me concentrer, j'ai des problèmes de concentration. En fait, pas forcément. C'est vraiment pour éviter à être là avec ce que je suis en train de faire, pour porter au point qu'on part dans des rêveries, dans l'assise. Enfin, ça m'a vraiment appris ça, c'est assez incroyable. Voilà.
Ah oui. On trouve toutes les... Moi, quand j'écris, pareil, hein. Oh, j'ai une lessive à faire. Il faut préparer le déjeuner.
Et à la fois, ça a peut-être partie aussi du processus créateur.
Oui, moi, je laisse faire. Enfin, je laisse faire. Je me flagelle. Flagelle pas en disant ça, je vois ce que je fais. Enfin, je sais qu'il y a des écrivains qui peuvent se permettre, qui ont des studios où il n'y a pas d'internet pour pouvoir éviter ça. Bon, le problème, c'est qu'il y a le téléphone qui est 3G, mais quand même, pour ne pas faire ça. Ou ne pas avoir de lessive à faire, ou le téléphone, ou autre chose. Et la méditation, c'est le même principe. On se met dans une situation et il n'y a rien. Et même là, on est tenté de l'éviter. Éviter quoi? Éviter juste d'être là, en fait. C'est fou quand même, hein? C'est vraiment fou. Donc notre travail, entre guillemets, dans cette pratique, entre guillemets, c'est de juste être là. C'est tout. C'est tout. Mais, alors, si tu racontes ça à tes copains, oui, pourquoi tu fais la méditation? Juste pour être là. Alors là, il y a vraiment...
Mais c'est très bien.
C'est
vrai. Ouais, mais c'est très bien, parce que je discutais avec une copine qui ne fait pas de méditation, et je lui voilà, parlais un peu de comment... Du coup, depuis le nouveau centre, que voilà, on a trois par semaine, donc ça fait plus qu'avant, voilà. Bon. Donc je parle un peu de ça, et elle me dit, je sais plus comment exactement elle le tourne, mais elle me dit un truc du style, mais il y a plein de trucs bien, quoi, il y a plein de bonnes raisons de faire de la méditation. Et ouais, sans doute qu'il y a plein de bonnes raisons de faire de la méditation. Bah, je m'en fiche un peu de toutes ces raisons de faire la méditation, mais sans doute il y a plein de raisons. Mais du coup, pourquoi moi j'en fais, c'est très difficile de dire, parce qu'en fait ça passe à côté de tout ça, quoi. Et je pense que justement, il y a plein de bonnes raisons de faire la méditation, et qu'on n'entend quand même pas parler de toutes ces raisons. C'est ça qui vient en premier, et du coup, ça laisse plus difficilement la place d'imaginer qu'on puisse faire de la méditation pour autre chose que tout ça, que tous ces réductions de stress, ces trucs-là. Donc c'est très difficile, c'est très difficile d'expliquer, en fait.
Oui, et en même temps... c'est un peu comme si on se présente à la douane pour aller prendre un avion et on nous demande notre passeport ou qui on est et on dit bah, je n'ai pas d'identité fixe. Ce qui est la vérité, hein. Mais ils ne vont pas te laisser monter dans l'avion. C'est pas possible. Mais c'est vrai que tu n'es pas ce qui est écrit là. Nom, prénom, âge, taille, nationalité, c'est pas ça, c'est pas toi ça. Mais bon, il faut faire avec la situation. Et alors, dans cette situation, c'est important. Ok, j'accepte. Je sais que c'est pas moi, mais bon, voilà, c'est moi. Pareil, quand les amis demandent, etc., on essaie de trouver une réponse qui, avec laquelle on est ok. Bon, ça me fait du bien, ou j'aime bien, ou je ne sais pas trop, mais ça ne me fait pas de mal, ou je ne sais pas, des choses qu'on puisse dire. Ok, pourquoi pas? J'explique à mes parents, à ma famille, etc. Pourquoi pas? Hein? Parce que c'est là où on vit, c'est cette société dans laquelle on vit. Ça, c'est le point de vue de la compassion, parce que si on était, c'est pas possible, mais si on voit que l'absolu, que tout est bon, il n'y a pas d'identité fixe, il n'y a pas de raison, tout est inutile, alors là, il n'y a rien, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de tristesse, hein, mais il n'y a pas de joie, il n'y a rien. La seule façon de pouvoir goûter à cet absolu, c'est dans le relatif. on ne peut goûter l'unité que dans la diversité. Et donc, le non-séparation, on peut le vivre uniquement dans la séparation. Ça paraît contradictoire, mais c'est ça. Et c'est ça le... Bon, on parle toujours de compassion et sagesse dans cette pratique. L'aspect sagesse, c'est l'unité, l'absolu, tout est un, il n'y a rien, tout est parfait, etc. Ça, c'est la sagesse. Voir ça, c'est la sagesse. Mais le fonctionnement de ça, mettre ça en œuvre, c'est la compassion. C'est l'amour. Et la sagesse sans l'amour, c'est pas la sagesse. C'est pas possible. Donc, il faut avoir de la compassion pour ta copine et pour toi. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Parce que tout le reste, ce sera superflu, je crois. Merci.